Vous écoutez RTL.
RTL,
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Et je vous ai présenté donc toute l'équipe d'À la bonne heure. Voici maintenant notre invité. Comment pourrait-on cesser une seconde de penser à lui? Lui qui a été sacré pape des médias, il nous prouve chaque jour qu'il est une sorte de Bouddha de la pensée et de l'écriture, tant il occupe l'espace en librairie. Il est vrai que celui qui pratique autant de sport que Winston Churchill est un marathonien des lettres qui muscle chaque jour son cortex en se régalant des bêtises de ses semblables. Je ne sais pas si le mot « semblable » était bien choisi, contemporain, devrais-je dire. Car question esprit, bien peu peuvent rivaliser avec son sens de l'à-propos et son immense culture. Pour mieux, disais-je, se livrer à son occupation solitaire préférée, l'écriture. Il raffine la matière première et la transforme par un exercice de gymnastique déconcertant. Un billet quotidien dans Nice Matin, un éditorial hebdomadaire dans le Figaro Magazine, des essais, des livres de pensée et d'aphorismes, sans oublier son dialogue fructueux avec les auditeurs d'RTL, qui l'interrogent tous les week-ends dans Allo Bouvard, et requiert son avis éclairé. Pour se détendre entre deux occupations récréatives, il trousse un roman de mœurs, un petit régal d'observation de la nature humaine, où l'on devine son œil qui frise et toute la facétie de son caractère. Et il publie donc chez Flammarion Gaston et Gontran, avec nous ce matin sur RTL, Philippe Bouvard. Merci Philippe d'être avec nous, de votre confiance, de votre amitié. Vous publiez Gaston et Gontran, si j'ai bien compté, c'est votre 64e livre.
Mais seulement mon 16e roman.
Voilà. Alors comment vous choisissez un genre? Vous dites, tiens, là j'ai envie de faire un roman?
Oui, alors, c'est une récréation pour moi, et j'espère que ça en sera une pour les lecteurs, parce que bon, je suis tantôt tributaire de l'actualité, qui d'ailleurs, je vous l'accorde, assez réjouissante en ce moment, tantôt je me raconte, mais ça a des limites, parce que pour faire ses mémoires, il faut vivre, or j'ai déjà beaucoup vécu, mais j'ai presque autant raconté. Alors de temps en temps, je m'offre le droit à la fiction. Mais une fiction qui quand même frise la réalité, qui s'installe dans un décor que nous connaissons bien tous les deux.
Oui, Monaco notamment. Oui.
Monaco. Alors, je vous dis tout de suite que j'ai pour les genoux couronnés autant de respect que vous pour les têtes du même métal.
Oui.
Donc, mais quand même, j'avoue une certaine fascination pour les aristos.
Ah oui.
Et peut-être davantage pour les faux aristos.
Oui.
Parce qu'ils ont plus de...
Mais ils ont du mérite d'avoir, oui. D'avoir envie de se faire lomper la tête.
Ils ne sont pas nés avec un blason dans la bouche.
Non.
Et il faut quand même s'imposer dans une société qui, vous me l'accorderez, n'est pas toujours indulgente.
Hein. Non. Alors, on ne dira jamais autant, et c'est ce qui m'a amusé dans votre livre, on ne dira jamais assez l'influence des noms et des prénoms sur la destinée et la psychologie de ceux qui en sont affublés. Ça pourrait être un peu la morale de Gaston et Gontran, le prénom a une influence.
Oui, alors je dirais même l'identité. D'ailleurs, regardez le nombre d'artistes qui ont changé
de nom,
pour réussir. À telle enseigne que Madame Marion Cotillard a beaucoup de courage d'avoir gardé le sien, hein, parce que c'était pas un nom de vedette. Hein.
Bon, et Julien Pinoche, c'est pareil. Hein.
Je sais pas si ça veut dire encore un nom de vedette. Parce qu'après, on vous... Oui, Sheila, je sais pas qui on connaît qui a changé de nom. François Valéry, ça doit pas être son nom.
Non, il avait fait ça à cause de Mitterrand et de Giscard, François Valéry.
Oui. Mais alors, le drame de votre personnage, qui est serveur dans un restaurant de Valbonne, c'est de s'appeler Gaston. Un prénom qu'il
alors,
trouve...
Alors, s'appelait Gaston Nono.
Oui, Gaston Nono. Oui.
C'est quand même pas un nom pour défrayer la chronique.
C'est un peu, mais Gaston, c'est vrai que c'est un peu... Il trouve que c'est démodé, il dit que c'est vulgaire. Et il pense que ça l'empêche de progresser professionnellement et de conclure sexuellement. Et
surtout, il est, comme nous tous, un peu schizophrène. C'est-à-dire que, bon, il a une vie vécue... il aborde avec résignation parce que ça lui permet de vivre honnêtement et de pas se poser de questions, mais il sait, parce que il voit dans son restaurant affluer...
Oui, qu'il y a une autre vie est possible.
Des gens de la haute, il sait que y a des gens qui sont comme lui debout devant une table, et puis il y a des gens qui, comme ses clients, ont le droit de s'asseoir à table. Mmh. Et il aimerait bien passer de la station debout à la station assise.
et il est amoureux secrètement d'Edwige, Edwige, qui est la patronne du restaurant et qui a un nom. Alors, elle chic, a un nom plus chic, évidemment.
Oui, alors il est amoureux de sa patronne, ce qui prouve d'ailleurs que le dialogue social marche pas mal en France. Malheureusement, la patronne ne lui accordera ses faveurs qu'une fois, un jour où la recette avait été particulièrement bonne. En fait, il n'a pas beaucoup de chance avec les femmes, qui, alors qu'il est plutôt bel homme, mais ce sont quand même les femmes qui lui permettront d'oublier Gaston pour devenir Gontran. Mm. Et Gaston Nono deviendra, excusez du peu, le comte Gontran de Bussière.
Oui, c'est pas rien.
Ah oui, on se fait adopter par une vieille comtesse friquée et très âgée.
Vous avez l'air très renseigné.
C'est très, très. J'ai essayé maintes fois.
C'est
mais
sympathique de nous donner le mode d'emploi.
Sans succès. Vous pouvez vous faire adopter par quelqu'un qui a 15 ans de plus que vous. Hein? Oui, c'est la différence d'âge. Alors, je vous propose maintenant, vous pouvez partir avec qui vous voulez, avec votre adopté ou votre adoptante.
Et même si on s'appelle Gaston.
Ou avec votre régulière, même quand on s'appelle Gaston, au Mas des Tourettes, au cœur des terres de Saint-Hilaire, pour jouer au golf. Non, ce n'est pas une faute de frappe, je le dis bien. Ce n'est pas vraiment un golf. C'est du golf dans la forêt et il n'y a pas de trou. Voilà.
C'est pas très bien.
C'est du golf.
C'est pas très clair cette histoire quand même. Un golf sans trou.
Écoutez, au pire, je vais vous dire.
Simple, c'est exactement comme le golf, sauf que ça n'a rien à voir.
Voilà. Et je vais vous dire, il y a une piscine, il y a une piscine formidable. On boit du bon vin, il y a des vignobles. Si vous n'avez pas envie de jouer au golf, eh ben ne jouez pas au golf. Mais d'abord, il faut jouer à mon énigme. Alors. Quand on est sûr d'une affirmation qu'on vient de faire, on peut dire « Eh bien, j'en mets ma main au feu ». Mais d'où vient l'expression « mettre sa main au feu » ?
Ne faites pas le test chez vous pour non. répondre à cette question.
Téléphonez tout de suite au 3210 ou 74 900 avec le code BONHEUR en majuscule par SMS. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
RTL
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne.
Et avec Gontran,
il n'y a pas de chanson.
Il n'y a pas de chanson avec Gontran, c'est dommage. Tout va changer dans la vie de Gaston quand il va devenir Gontran. C'est vrai que Gontran, ça pose un homme. D'abord, il va s'aventurer hors de ses terres, Cannes, puis Monaco. Il va s'habiller autrement, il va louer une Bentley.
Je vous ferai remarquer qu'à Cannes, on le prend pour une vedette.
Oui, parce qu'il ressemble à un acteur très connu.
Un acteur russe qui doit venir le lendemain, on est en plein festival. Oui. Bon, il ne comprend pas exactement ce qui lui arrive. À toutes les questions qu'on lui pose, il répond par le seul mot qu'il connaît, Borch, qui veut rien dire d'ailleurs, sauf dans la restauration. Et finalement, le lendemain, la presse est pleine de ces photos, d'autant que le film dans lequel il apparaît, avec une ressemblance troublante, est très bon. Et bon, il se laisse faire, un peu surpris quand même. Et le lendemain, quand le véritable comédien russe arrive, on le prend pour un usurpateur.
Comme quoi. Mais alors, justement, vous qui connaissez bien Cannes et sa région, l'apparence joue un rôle très important.
Oui. Mais il n'y a pas qu'à Cannes, hein.
Non. Oui. Mais on a l'impression.
Quand même un peu dans le sud. Non, dans le sud, c'est pas plus marqué.
Alors, l'apparence, oui, bien sûr. Et alors, ce luxe qui peut affleurer dans la plupart des épisodes, il tient à une constante dans notre société. On ne peut aujourd'hui plus réussir qu'en feignant d'abord la prospérité. Parce que quand on prête qu'aux riches, il faut faire semblant de l'être. Alors bon, il loue une voiture de luxe, il va dans des restaurants de luxe, mais pas très longtemps. Alors, je dois vous faire un aveu, parce que en face de vous, je me sens particulièrement en confiance, c'est que j'appréhende certaines critiques qui diront, bon, la première partie du livre, bon, c'est un reportage, et parfois un petit peu rigolo, enfin, c'est ce que j'espère. Mais la deuxième partie, ça devient complètement fou. Et là, le critique aura raison, car effectivement, quand j'ai relu le livre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là ? Et je vais vous donner la réponse. Eh bien, à partir de la moitié du livre, ce sont les personnages qui ont pris, et paraît-il que le phénomène n'est pas nouveau, qui ont pris la direction et l'écriture. Et donc j'ai suivi tant bien que mal. Ils se sont mis dans des situations où je n'aurais jamais osé les plonger. Cette deuxième partie du livre, elle est complètement folle. Mais il y a
un fond de vérité, parce que
la folie touche
à la génie, parce que
réalité.
Oui, hein. Parce que par exemple, il y a des personnages qui sont tout la fausse comtesse, etc. C'est des gens que vous avez côtoyés à Monaco quand on est autour d'une table. Pas seulement un tapis vert ou une table de restaurant. On en voit des gens assez étranges.
Si vous voulez, j'ai voulu témoigner à la fois sur l'univers de la restauration que j'ai approché voilà quelques années, mais longtemps d'ailleurs, quand j'étais jeune reporter au Figaro, et que pour mieux rendre compte des vacances des Français, je m'étais fait engager comme serveur toute main dans un restaurant de la plage de Trébeurden. Et j'ai servi à table, j'ai fait les lits et j'ai flirté avec la caissière. Enfin, je me suis mis complètement...
Vous avez fait le minimum syndical.
Dans la peau du personnage.
Je suis de là-bas, on en a beaucoup parlé de cette histoire.
Ensuite, j'ai voulu témoigner sur l'univers du jeu, parce que j'ai le droit, j'ai payé assez cher le droit de dire ce que j'en pense.
Bien sûr. Vous le dites souvent, hein, on paye beaucoup, on fait des cadeaux et on part avec rien en échange.
La seule façon de gagner de l'argent avec le jeu, c'est de parler du jeu ou de faire un livre sur le jeu.
Vous écoutez RTL.